Jean-Philippe, tu t'occupes de l'association Jeux de Main. C'est une association de fabrication de jeux créée en 2014, c'est ça ?
C'est ça, oui. C'est avec ma camarade Anaïs, où on s'est rencontrés chez Bois et Compagnie, une asso de menuiserie. On s'est dit qu'on pouvait mettre nos savoir-faire de menuiserie au service de la création de jeux. Enfin, création, on invente très peu de jeux, mais au service de la fabrication de jeux. Alors moi je suis issu du monde du jeu, enfin j'ai toujours été dans le monde du jeu depuis mon adolescence, et j'ai une bonne culture ludique, et Anaïs avait un profil de menuiserie, et voilà, et aime bien le jeu aussi, donc voilà, on s'est dit qu'on pouvait... après, avec une forte culture sur le réemploi, sur le pas faire quelque chose de commerce, de faire des objets en Chine pour les commercialiser, c'est pas du tout ça l'esprit, mais avec cette culture qui est commune à nous deux et à d'autres autour, hein, de prendre des choses qui sont jetées au rebut et qu'elles peuvent encore largement servir. Donc voilà, recréer des petits jeux avec ça, ou des grands jeux même.
Alors justement, on peut vous voir actuellement sur le marché de Noël, ce marché solidaire qui est sur les allées Jules Guesd. Et on y est allé, Johan y est allé, il a fait une petite prise de son.
C'est dans le coin, du coup je me suis arrêté ici, ça avait l'air sympa, il y avait du bois, des trucs de récup.
C'est quelque chose auquel tu es sensibilisé, enfin tu...
Ouais, la récup, j'essaie d'en faire aussi un petit peu de mon côté. Et là, du coup, ça montre tout ce qu'on peut faire avec. C'est chouette, enfin, c'est vraiment sympa.
Qu'est-ce qui a attiré un peu ton œil ou qu'est-ce qui t'intéresse ?
Je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée cadeau précise, mais du coup, ça donne des idées. Je parcours un peu les trucs. Il y a des jeux un peu marrants, genre le Puissance 4 en 3D. Enfin, non, c'est hyper créatif, c'est chouette. Le concept est sympa et après on peut faire, il y a tout un tas de jeux qui peuvent être fabriqués avec ces matériaux de récup qui sont vraiment sympas. Ça donne plein d'idées.
Tu vas y jouer, Axel. C'est comme ça.
Tu vas jouer.
En fait, Axel, tu peux commencer.
Comment on fait ?
En fait, tu dois le mettre devant et puis tu... Non, comme ça.
Tu tires pas les Axel vers toi.
Comme ça. Non, tu tires pas avec le fil. Tu pousses le balai derrière et tu lâches.
Non, regarde, faut que tu le mettes devant, Axel, comme ça. Et là, et voilà, tu veux plus. Tac, allez, à toi, Rémi. Voilà, voilà. Oh, je vais perdre.
J'ai gagné. Ah non.
Ah. Ouh. Vite.
Et voilà ce qui nous met dans l'ambiance de jeu de main. Et alors, quel type de jeu on peut voir chez vous ?
Bien, sur ce son, on a pu entendre le grand classique de nos jeux, qui est la table élastique. Donc le jeu addictif par excellence, ou un jeu de rapidité, ou du petit, là, comme on a entendu, aux adultes. Voilà, on fait des parties endiablées. Après, on a une autre gamme de jeux de plateau, donc on va dire genre dame, mais forcément, on s'amuse pas, on n'essaie pas de concurrencer les Chinois à faire des dames, hein, qui font ça à 3 francs 6 sous, et ça fait 3 fois le tour du monde. Nous, on essaie de faire d'autres jeux, des jeux abandonnés, des jeux qui sont tombés dans l'impasse de notre système commercial où un éditeur où il vend 100 000 jeux ou il l'abandonne. Donc on prend plutôt, on va chercher ces jeux-là qui sont des bons jeux mais qui peuvent pas faire 100 000. Donc nous on en fait 10 et on essaie de commercialiser les 10.
Alors un exemple de ce genre de jeu.
Ah, le problème, c'est que c'est des jeux absolument pas connus. Donc, je peux vous en citer, sur des jeux traditionnels comme le Puluc, un jeu du Guatemala, qui a pas l'intérêt commercial, donc que personne n'édite, qui est introuvable. ou des jeux aussi en, enfin souvent des jeux ancestraux comme le moulin ou un jeu plutôt récent mais qui a, voilà qui a, le Jumping Jack, une petite course de lapin avec des paris où chacun fait un pari sur sa course avant de commencer. Voilà, plutôt du jeu de voilà, une gamme de jeux de plateau et après une gamme de jeux de bois, de grands jeux en bois qui vont être des jeux d'adresse quoi, d'adresse mais genre fête de village quoi, les grands jeux bois qu'on peut retrouver dans des fêtes de village pour faire jouer les grands aussi.
Et alors vous avez un lieu où vous prêtez vos jeux, comment ça se passe?
Depuis moins de 3 mois, on produit nos jeux avec nos camarades de Recyclobat, hein, qui est
une structure qu'on a reçue dans la semaine.
Entière.
Voilà.
Voilà, qui est tout à fait dans le même esprit, qui fait partie du réseau des assos qui font du recyclage à Toulouse, comme Bois et Compagnie. Et voilà, eux, c'est une ressourcerie du bâtiment. Donc, c'est à la fois notre fournisseur, parce qu'ils nous fournissent une partie de nos matériaux, surtout sur le contreplaqué. Et c'est à la fois, et aussi nous héberge, en partageant le lieu de fabrication, leur atelier.
Et donc après, l'objectif, c'est plutôt d'alimenter les structures de loisirs et les associations de joueurs avec vos jeux.
Pour l'instant, on est en fait l'asso a un peu plus d'un an, c'est très très peu, étonnamment, 13-14 mois, en fait c'est pas beaucoup. Donc pour l'instant, on s'est juste axé sur la vente aux particuliers, sur le marché de Noël, au moment de Noël, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut vendre des jeux. Et c'est d'autres pistes après les ludothèques, les grosses structures de jeux, c'est d'autres pistes et c'est d'autres jeux. On va y aller, mais on n'a pas eu le temps encore de tout développer. Parce que déjà la partie, en fait, une grosse partie de notre énergie cette année, c'est consacré à trouver les approvisionnements. Qui peut récupérer telle chose, que ce soit qu'il puisse le faire plusieurs fois pour qu'on puisse faire le même jeu plusieurs fois sans faire des grandes séries, mais dans tous les cas sécuriser les approvisionnements sur les pions, sur les dates de lit, sur les contreplaqués. On a trouvé le bois, enfin voilà, Recyclo est une des solutions. Bois et Compagnie peut nous fournir de la palette et on en a besoin. On a besoin de ce bois massif et aussi en partenariat avec Emmaüs, hein, qui nous fournit pas mal de pions et pas mal aussi d'objets cassés, des étendoirs à linge, des parasols en bois cassés, des choses comme ça, qui nous permettent, nous, de refabriquer.
Si on veut plus d'informations et vous rencontrer, on peut aller sur votre site internet.
Voilà, on a un site internet, jeudemain.org, donc jeu au pluriel, le chiffre 2 et main au pluriel, .org. Il y a un email de contact et notre base de jeux est là. Et comme on n'est pas que des commerçants sur ce site, tous nos jeux sont sur le site et on peut copier-coller toutes les règles de jeu et les faire soi-même. Et c'est d'ailleurs une chose qu'on défendait là au marché Noël solidaire. Il y avait en face un atelier où si quelqu'un finalement n'a pas d'argent mais du temps pour se faire un jeu, eh bien on avait à ramener tous les matériaux et tous les jeux étaient faisables par soi-même pour quelques euros seulement.
Merci beaucoup Jean-Philippe. Et justement, vous travaillez donc avec Bois et Compagnie et François de Bois et Compagnie est là aussi et il va nous présenter l'association et les différents projets qui sont en cours. On va faire une petite pause musicale.
She wanted me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood.
Tu as choisi ce titre, Johan, puisque c'est un titre qui se nomme Norwegian Woods des Beatles.
Oui, tout à fait. On a fait une petite programmation musicale qui, du coup, restait dans la thématique du bois. Donc, vous avez pu écouter ou réécouter Norwegian Woods des Beatles.
François, bonjour.
Bonjour.
Tu vas nous présenter Bois et Compagnie. C'est une structure qui existe sur Toulouse depuis plusieurs années maintenant.
Oui, ça fait 10 ans du coup que la structure a été montée à la base par une personne qui a mis à disposition son atelier, ses compétences et qui voulait du coup partager ça avec d'autres. La SOA a évolué depuis puisque ça fait 10 ans qu'on existe. On est principalement autour de deux activités. Une activité association classique, plutôt formation sur le travail du bois, formation loisirs. L'idée, c'est de pouvoir permettre à un maximum de personnes de pouvoir organiser son travail correctement, d'utiliser les machines sans danger et de pouvoir partager un espace collectif pour réaliser différents projets portés par les uns et les autres. Voilà, qu'il y ait de l'échange dans tous les cas, avant tout sur de la pratique commune. Et de se dire que cette activité-là, dans tous les cas, elle est accessible à n'importe qui et que le fait qu'il y ait des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des gens qui sont plutôt sur des gens qui travaillent, des gens qui travaillent pas, de pouvoir mêler un maximum les personnes et que pour autant, devant une dégauchisseuse, on est tous pareils, quoi. Donc de pouvoir
de on pouvoir est un peu partager. Gauche.
ça sert justement à être un peu droit, du coup, mais voilà. Donc de pouvoir partager ça. La base de l'association, elle est vraiment venue de là. On a évolué au fur et à mesure sur ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, mais sur la question du réemploi, qui est une question qui est venue assez vite, puisque donc ce qu'on a défendu depuis le début, c'est de se dire que c'est le travail qu'on donne à la matière qui lui donne de la valeur et que une matière qui est déjà accessible. C'est quand même beaucoup plus intéressant de pouvoir l'utiliser directement que de simplement faire qu'elle soit jetée à la benne, qu'elle soit traitée par des procédés industriels et qu'on puisse du coup plutôt trouver à chaque coup des adaptations, en fonction de la matière première, trouver l'utilisation qui est la plus pertinente. C'est particulièrement vrai, on l'imagine très facilement sur les projets de jeux de main, notamment sur l'optimisation de chaque récupération. Et nous, on a essayé de développer ça, principalement auprès autour de la collecte de bois de palette à usage unique et non traité, en développant des productions autour de en ce moment beaucoup des aménagements de jardins partagés. On a fait beaucoup de constructions démontables, notamment celles qui sont utilisées pour le marché de Noël artisanal et solidaire, là, du coup, donc les 17 structures bois qui sont sur le marché, et on essaye de développer aujourd'hui un projet d'habitat, donc de pousser la technicité jusqu'à répondre aux normes qui sont aujourd'hui celles de la RT 2012, donc de pouvoir intégrer avec du réemploi les normes aujourd'hui de la construction neuve.
Justement, on va parler de ce projet d'habitat démontable et léger et aussi de l'atelier chantier d'insertion. Les deux projets sont mêlés. Cet projet d'habitat léger démontable est né d'une envie à la fois des salariés ou des personnes qui passaient dans la structure en se disant nous, on a un problème de logement. Tiens, on pourrait le résoudre en construisant notre maison.
Ça reste globalement c'est le rêve a priori de quasiment tout le monde de pouvoir construire sa maison. Pour autant, de passer du rêve à la réalité, c'est pas forcément quelque chose qui est si simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut bien, on s'improvise pas constructeur de maison, même si du coup il y a plein de, on se rend bien compte que c'est accessible, mais il faut pouvoir trouver les conditions pour que ce soit accessible. La base, c'est que on était deux personnes en galère de logement et donc du coup on est parti sur cette idée-là. Au fur et à mesure, il y a un maximum d'adhérents. On n'a pas refait le compte, mais je pense qu'il y a bien entre 150 et 200 adhérents qui, à un moment donné, sont venus réfléchir sur ce projet-là. On est sur une phase aujourd'hui où on a plutôt resserré avec un groupe d'adhérents sur le groupe technique, plutôt qui ont des compétences, plutôt qui viennent être un peu plus efficaces que ce qu'on a fait sur un certain nombre d'années. Mais on joue et une dynamique collective et un aspect besoin d'avancer techniquement sur les solutions qu'on a envie de proposer. Et que c'est grâce du coup à l'engagement de l'ensemble des adhérents de la structure, donc de Bois et Compagnie, qui se sont engagés sur ce projet, qu'aujourd'hui on peut imaginer que la production se fasse à grande échelle dans le cadre de l'atelier chantier d'insertion. Donc les deux dynamiques se sont construites en parallèle. Pour présenter rapidement, un atelier chantier d'insertion, c'est un dispositif très particulier qui est régi par la loi de lutte contre les exclusions de 98, qui en gros permet de subventionner une partie d'activité pour embaucher des personnes qui sont, dans ce qu'on dit, dans tous les cas, éloigné de l'emploi classique, et l'objectif c'est de mettre en situation de production pour venir régler un certain nombre de freins à l'emploi. Donc de se dire...
Et donc là, au niveau de la structure, c'est un atelier qui a été mis en place dès le départ, ou qui s'est mis en place il y a peu ?
Non, depuis juillet 99.
Okay.
Donc il y avait peu de salariés au début, il y avait deux collègues spécifiquement embauchés sur la CI. On a eu besoin, nous, de trouver nos marques aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas employeur. Aujourd'hui, on est 22 salariés. Ça a été une évolution au fur et à mesure et qu'on espère qui reste suffisamment juste par rapport à ce qu'on a envie de défendre sur la capacité des uns et des autres d'accéder à un poste de travail, d'acquérir des compétences, forcément de pouvoir être en situation de se rendre compte que chacun est en capacité de produire et que de partir d'une palette et d'arriver à une maison, c'est quand même hyper valorisant pour les uns et les autres, et que quand on est dans une société qui vous a mis de côté pendant longtemps, qui a créé de l'exclusion, qui de l'isolement, avec l'ensemble des conséquences que ça a pour l'ensemble des vies des uns et des autres, ben là du coup ça fait partie d'un des points qui peut permettre de se reconstruire et d'être fier de son travail. Dans tous les cas, hein, c'est ce qu'on souhaite défendre.
C'est des contrats qui durent longtemps, les gens vous rejoignent pour un petit bout de temps ou...
Alors, le cadre étant contraignant, du coup, c'est pas nous qui décidons de tout. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons qui on embauche, mais on peut pas embaucher n'importe qui. Il faut que ça soit, il faut qu'il y ait un agrément donné par Pôle Emploi. C'est un contrat qui, au début, est un contrat de 4 mois, qui peut aller maximum jusqu'à 2 ans, qui est sur 28 heures par semaine et au SMIC. Donc, on n'est pas sur quelque chose. On est vraiment sur des contrats précaires. On aimerait bien que ça puisse être autre chose. Aujourd'hui, c'est pas nous tout seuls qui allons pouvoir changer la loi là-dessus. Ce qu'on défend dans tous les cas, c'est de le fait que ce travail-là, ce poste de travail-là, c'est un marchepied du coup pour que chacun puisse après s'appuyer là-dessus pour construire la suite de sa vie, principalement professionnelle, mais dans tous les cas que ça soit un point d'appui le plus valorisant possible pour la construction après des projets des uns et des autres qui sont tous différents, qui sont pour une partie autour du travail du bois, pour une partie complètement sur d'autres choses. C'est-à-dire qu'on même si du coup on apprend aux uns et aux autres les bases du travail du bois, c'est pas forcément pour autant que c'est le projet professionnel des uns et des autres, et on n'est pas là dans une logique de normalisation pour imposer à chacun ce qui serait bien de faire. Ce qui est intéressant, c'est du coup de pouvoir construire avec chacun une manière spécifique d'accompagner les uns et les autres dans leur projet, puisque dans tous les cas nous on n'est pas là pour insérer des personnes, on est là pour accompagner des personnes dans une logique d'insertion en fonction de ce que eux ils ont envie. C'est-à-dire qu'on fera pas, c'est impossible dans tous les cas de faire contre ou à la place des uns et des autres, mais par contre d'adapter notre manière de faire à chacune des situations, d'apprendre avec les uns et les autres comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble, avoir de l'exigence professionnellement et pouvoir se sortir souvent du merdier du quotidien, quoi. Toutes les tracasseries administratives, les dettes, les problèmes de santé, le fait de ne pas avoir de permis, de ne pas avoir de véhicule, des choses qui, dans tous les cas, impactent énormément le quotidien des uns et des autres.
Et donc, au niveau de cet habitat léger démontable, on peut aujourd'hui en voir deux. Vous avez déjà été en implanté un du côté d'Emmaüs. C'est ça.
Donc à la Barre sur l'Aise, du coup, on a installé une version 2. Du coup, on a essayé dans tous les cas à chaque coup de marquer un peu
les différences. Où sera le premier?
Aujourd'hui, c'est nos locaux dans l'atelier. Ouais. Avant, il a été au maquis, il a été un court instant au hangar. Voilà, bon, dans tous les cas, c'était une structure très simple qui s'apparente plutôt aux cahutes du marché. La version 2, du coup, est installée à Emmaüs à la Barre sur l'Aise depuis juin. Il y a un couple qui y habite depuis juin, donc Dirk et Face. L'intérêt pour nous, c'était de au-delà du fait qu'ils servent et qu'ils soient pas juste stockés quelque part, c'était qu'il y ait un retour d'expérience sur des personnes qui y habitent, qui puissent nous dire ça marche, ça marche pas. Voilà, qu'on soit pas sur l'idée de construire d'une manière déconnectée de l'usage, mais que ça soit plutôt adapté à une manière de vivre. Chacun a sûrement des manières de vivre différentes et de pouvoir évaluer du coup la palette la plus large possible d'utilisation qui en est faite. Donc ça nous a permis de réfléchir aussi à la version 3 qu'on est en train de finaliser avec un étage complet, 20 cm d'isolation sur le plancher, sur les murs et 40 cm sous toiture. Donc quand même un enjeu de pas construire une passoire thermique et de pouvoir être sur une faible consommation énergétique pour les personnes qui vont y habiter. Et l'objectif par la suite, c'est de pouvoir en construire et en vendre une dizaine par an. Principalement, l'idée du projet, c'est de pouvoir...
À qui ces habitats sont destinés? Du coup, c'est plutôt des bailleurs sociaux, c'est plutôt des gens qui sont en galère de logement. Ça peut être aussi des particuliers.
Nous, ce qu'on dit, c'est dans tous les cas que la construction, elle ne conditionne pas qui va y habiter dedans. C'est-à-dire que de la même manière que ça soit pour quelqu'un qui a les moyens, qui voit ce type de solution sur un beau magazine sur papier glacé, ben, ça peut être une solution pour plutôt sur une logique minimaliste. Hein. On est sur du 37 mètres carrés habitable, donc de pouvoir... c'est tout ce qu'il y a en lien avec le mouvement des tiny house, dans tous les cas, une logique de sobriété, mais qui est accessible à n'importe qui. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'engagement social qu'il peut y avoir dans ce cadre-là, c'est-à-dire que même si ça peut être accessible pour aller vite à des bobos ou à des bourgeois, c'est possible, mais pour autant c'est aussi possible pour des gens qui aujourd'hui sont privés de logement, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un garant, donc d'avoir un appart,
d'avoir un salaire, le montant du loyer,
voilà, de l'ensemble des contraintes aujourd'hui sur le logement. Et on essaye de construire du coup avec les bailleurs sociaux, des collectivités locales et des structures d'insertion par le logement, des solutions qui permettraient du coup que ça soit accessible à plus de personnes possibles, et notamment ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire que aujourd'hui ceux qui sont privés d'habitat. Ce qu'on défend aussi là-dedans, c'est le fait que c'est possible d'être embauché aussi sur l'atelier chantier d'insertion, et que le fait de mêler insertion par l'activité économique et insertion par le logement, c'est quand même une manière de pouvoir s'attaquer aux deux plus grosses problématiques que subissent une majeure partie des personnes qui sont mises de côté dans une logique de société excluante, quoi. Donc voilà, on essaye et de pouvoir être sur cette logique plutôt sociale, et en même temps on a aussi des impératifs économiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut qu'on vende 10 habitats, sinon nous on coule. Et dans ce cadre-là, on essaye de commercialiser aussi auprès de particuliers, de gîtes, de campings. Donc n'importe qui serait intéressé pour voir cette solution, qui se pose des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, ça permettra aussi au lieu d'être simplement une logique de consommation, ça permettra aussi de permettre que ce projet puisse grandir avec l'apport des uns et des autres.
On va bientôt terminer cette interview. Juste avant, j'ai une question. C'est un habitat léger démontable. Alors, comment un habitat tout en bois, en récup, peut être démontable? Parce que c'est pas comme une yourte, quand même.
Non, on est... Alors, on a dit léger pendant longtemps, on se rend compte au fur et à mesure que quand même il l'est de moins en moins. Donc on est plutôt sur un habitat modulable. L'idée c'est plutôt de construire un atelier, en fait des sortes de modules de murs ou des modules de sol. Les modules de murs qui font 1m20 de large et 2m40 de haut. Et l'idée c'est de pouvoir assembler l'ensemble de ces modules à peu près comme on veut en fonction de l'exposition, donc de l'orientation par rapport au soleil, du voisinage et en gros d'avoir un principe de kit, hein, un peu comme des Lego, et de se dire que chacun est en capacité de réfléchir à un agencement d'un petit espace, 20m², hein, mais 20m² au sol, mais chacun est en capacité de s'approprier cet habitat, et c'est pas, on dit, ben voilà, c'est cet habitat que tu prends, et puis t'as pas le choix, et puis tu te débrouilles avec ça. Chacun est en capacité d'implanter les ouvertures là où il lui semble que c'est, là où son envie de vivre le porte, de positionner la salle de bain et la cuisine aussi en fonction. Alors, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais il y a dans tous les cas une marge de manœuvre un peu importante qui permet aux uns et aux autres de s'approprier l'habitat. Le principe après, c'est du boulonnage entre les différentes pièces, et donc sans accéder à l'intérieur de la structure, puisque l'idée c'est que le pare-pluie, le pare-vapeur et les différents panneaux techniques restent sur ces modules de mur ou de sol. L'idée c'est de pouvoir boulonner à chaque coup les éléments entre eux et de pouvoir du coup les monter et les démonter.
Et si je peux me permettre. Oui. Et si je peux me permettre, je voudrais rajouter que le démontable, c'était aussi pour essayer de montrer qu'on pouvait installer ces habitats dans tous les terrains en transition dans une ville. Donc les installer pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que y a plein de projets immobiliers, de terrains qui sont laissés nus pendant des années, le temps que les projets émergent. Ce qu'on défend, c'est de dire, mais voilà, il y a 50, il y a 100, il y a 300 places dans l'agglomération toulousaine où on peut loger des gens à la rue. Et sans avoir recours à des gros permis de construire, à des grosses constructions, voilà, c'est démontable. On les installe là, on dépanne des familles complètes, et 2 ans après, elles peuvent s'installer dans du dur. Voilà, d'où le démontable.
L'enjeu de l'accès au foncier est quand même un élément important aussi là-dedans, et donc du coup, il y a aussi cette possibilité très précise qui est rassurante pour les uns et les autres. On sécurise le fait d'avoir un toit au-dessus de la tête, même si l'endroit où c'est peut évoluer.
Et donc, vous avez 2 ateliers. Là, on vous a rencontré sur le marché de Noël. Quelles sont les prochaines dates dans lesquelles on peut vous rencontrer? Vous avez des ateliers toutes les semaines réguliers pour les gens qui veulent apprendre à se servir des machines, apprendre à fabriquer un élément en bois. Mais au niveau de ces projets, quel est le prochain rendez-vous? Le projet de toi et compagnie, du coup.
Alors on va aujourd'hui, on est principalement sur une on a un besoin de vendre, clairement, c'est-à-dire que pour payer 22 salaires tous les mois, il faut qu'on puisse rentrer de l'argent du fruit de notre travail. Donc on peut nous contacter dans tous les cas pour ce type de projet. On va sûrement organiser une inauguration pour le premier bâtiment de la version 3 qu'on est en train de finaliser. Donc ça sera l'occasion dans tous les cas de présenter le projet à un maximum de personnes. Donc ça, on communiquera dessus. Le plus simple, c'est d'aller voir sur le site internet de Bois et Compagnie et d'aller chercher Bois et Si, CIE, sur un moteur de recherche. Sur la partie associative, on reçoit les curieux, les nouveaux, tout ça, tous les jeudis à 18h. Et ce qu'on demande aux gens, c'est de nous appeler ou d'envoyer un mail pour dire qu'ils viennent. Et c'est l'occasion de prendre le temps de présenter la structure et d'échanger un petit peu plus précisément. Donc n'hésitez pas, l'objectif c'est bien de construire un espace collectif avec l'apport des uns et des autres.
On va finir sur une note boisée également, comme un arbre dans la ville, de Maxime Le Forestier. Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans les studios de Canal Sud ce matin.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Un arbre dans la ville. Je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons. Sans abri, sans domicile, comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies, mes frères des forêts ont fondé une famille, comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, pour pousser je me débats, mais mes branches volent bas. Des autos qui fument entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville. Béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthume entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, ami. Après ma mort, barricade de mon corps.